Il y a peut-être encore un signe distinctif de l'identité évangélique que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. C'est les odeurs qu'on peut rencontrer quand on rentre dans une église. Alors, vous pouvez avoir des odeurs de nems, des odeurs de choucroute, et ça dit quelque chose de la vie communautaire qui passe par des temps que l'on passe ensemble pour partager la communion fraternelle et le repas ensemble. Lorsque j'étais un petit garçon, que j'avais une dizaine d'années, il y avait un temps qui était pour lequel je me réjouissais tout au long de l'année. C'était le temps des grandes vacances, et plus particulièrement ce temps où en famille, nous quittions l'Alsace grisâtre pour nous rendre dans le sud de la France, où un membre de ma famille qui était pasteur, du côté de Carpentras, avait une belle bâtisse dans la belle Provence. Et les jours qui précédaient le départ pour ces vacances, c'était une excitation énorme pour moi, parce que j'allais retrouver ce lieu dans lequel je me rendais d'année en année. J'allais retrouver la chaleur du soleil qui grillait la peau à 15h l'après-midi. J'allais retrouver l'odeur de la lavande dans les effluves du Mistral. J'allais retrouver l'odeur du buis mouillé le matin lorsque je me promenais dans la propriété. J'allais retrouver tous ces endroits autour de la maison qui étaient des petits endroits secrets dans lesquels j'allais jouer. Et la veille du départ, c'était une excitation énorme pour moi, tellement je me réjouissais de l'endroit où j'allais aller. Et c'était aussi la veille, souvent la journée la plus longue, parce que le temps était long avant d'arriver au départ. En général, à 4h du matin, nous quittions l'Alsace en prenant la nationale parce que c'était moins cher que l'autoroute. À l'époque, on n'avait pas besoin de s'attacher dans les voitures, où les sièges étaient en sky noir, avec les cuisses qui grillaient dans la chaleur étouffante de la voiture, on roulait les fenêtres ouvertes pendant des heures. Mais franchement, supporter toutes ces choses ne coûtait pas grand-chose par rapport au plaisir et à la joie de ce qui m'attendait dans le sud de la France. Et ce parallèle fonctionne finalement avec notre vie spirituelle, avec notre marche quotidienne avec le Seigneur. Où trouver le courage lorsque la vie nous frappe par l'épreuve ? Où trouver les forces lorsque nous sommes frappés par le deuil ? Frappé par la souffrance qui marque notre vie terrestre. Et si vous sondez l'Écriture, et en particulier le Nouveau Testament, et en particulier les Épîtres, il n'y a pas une seule Épître où les choses à venir seraient absentes. C'est-à-dire, constamment, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous sommes appelés à trouver notre courage pour notre vie présente, en songeant à ce qui est devant nous et à ce qui va arriver. Et la perspective des choses à venir est un encouragement profond pour notre vie présente. En tant que petit garçon, ce qui faisait ma joie, c'est que je savais ce à quoi... Je savais ce qui m'attendait. Je connaissais la maison, c'était pas quelque chose de flou et d'abstrait, c'était quelque chose de précis. Et l'Écriture nous dit des choses sur ce qui va venir. L'Écriture nous enseigne sur ce qui va se passer dans la toute fin des temps. Et c'est là-dessus où j'aimerais, à partir de là, où j'aimerais partager avec vous trois textes pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. En fait, quand Vincent m'a laissé un message sur mon téléphone la semaine passée pour dire le contexte aussi particulier que traverse votre communauté en s'associant à la douleur et à la souffrance de ce départ tout à fait prématuré de ces petits enfants, de ce bébé pour la patrie céleste. J'étais en train de travailler par ailleurs ces quelques textes qui concernent les choses à venir. Et j'aimerais, comme petit point de départ, lire avec vous un premier texte, quelques versets déjà dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Et avant de lire quelques versets dans ce texte, encore faire deux remarques. La première remarque, je fais un retour à mon enfance. Alors, Ce n'est pas un signe de ma part de sélénité précoce, mais cela, il se trouve qu'il y a deux souvenirs qui rejoignent mon enfance à ce moment autour de ces questions. C'était ce chant pour enfants qui disait « un beau palais, une couronne, un vêtement blanc ». Alors certains disent que c'est la chanson du dentiste. Ce chant nous parlait des choses à venir. Et c'est vrai que la mélodie et les paroles m'accompagnaient, mais restait somme toute quelque chose d'assez abstrait. L'idée de vivre en blouse blanche, je vous avoue qu'en tant qu'enfant, ça ne m'enthousiasmait pas des masses. Et puis que dire quand on n'aime pas trop chanter, de songer que l'éternité entière nous allons chanter. Enfin, comment ces choses-là, qui sont reprises de l'écriture, s'articulent avec la réalité des choses à venir? Alors je vous invite à lire ces quelques textes dans le livre de l'Apocalypse. Voici ce que nous dit Jean, et voici la manière dont l'écriture se termine. Je lis dans la version du Sommaire. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu, sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses », et il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Et je saute au verset 10. Qui entame la description de cette cité céleste, de la Jérusalem qui descend du ciel. « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Dans les versets qui suivent, la nouvelle cité est décrite de manière concrète. Comment comprendre ce texte? Déjà quelques affirmations qui sont fortes et qui sont directement accessibles à notre sens lorsque nous lisons l'Écriture. C'est que les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans l'Écriture, c'est la dernière étape de la révélation de Dieu. L'Écriture nous révèle nos origines. Nous savons d'où nous venons. Nous sommes des êtres créés. Nous vivons dans un monde créé, que Dieu a créé. Et l'Écriture nous dévoile aussi notre destinée finale. La destinée finale de l'humanité. Et que dans ces choses que Dieu nous révèle, et Dieu n'est pas un Dieu mystérieux qui voudrait cacher des choses, l'Écriture nous révèle des choses pour nourrir notre quotidien dans notre marche avec le Seigneur, mais aussi pour nous dire la beauté de ce qui est devant nous. Et dans cette dernière étape de l'histoire de l'humanité, nous sommes donc destinés à vivre dans un nouveau ciel ou un ciel nouveau et sur une terre nouvelle. Et ce que je disais, ce que nous pouvons directement saisir dans ce texte, c'est que c'est un lieu où il n'y aura plus de larmes, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, le mal sera définitivement vaincu, ne fera plus partie de la réalité de ce nouveau monde et de cette nouvelle terre de manière définitive. Ça fait rêver, hein ? Notre expérience humaine actuelle nous confronte que trop régulièrement aux effets du mal, aux effets de notre péché et de toutes les conséquences que le péché a engendrées dans ce monde dans lequel je vis. Que ce soit le mal que je subis ou que le mal que je commets, l'Écriture nous révèle que notre destinée finale, c'est celle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, dans lequel le mal ne sera pas définitivement plus. Autre élément que ce texte nous enseigne, c'est que le ciel semble descendre sur la terre. Ce qui est dit au verset 2, « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel sur cette nouvelle terre. » Et il y a ici, dans le verset 3 et 4, une reprise de la réalité, une réalité de l'Ancien Testament qui était celle du tabernacle. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle ? Le lieu matériel, d'abord une tente, ensuite un édifice en pierre à Jérusalem, où Dieu habitait, où Dieu se manifestait de manière sensible au sein de son peuple. Quelques mètres carrés dans le lieu très saint où Dieu habitait, et cela était visible au travers de la nuée, la lumière, la nuée le jour et la lumière la nuit. Et il semble, à la lumière de ce texte, que cette présence qui était limitée à quelques mètres carrés dans le temple vient descendre sur toute la terre et sur toute la surface de la terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est cette destinée qui nous est promise où Dieu lui-même viendra habiter parmi nous de manière entière et définitive. Et parce que le mal ne sera plus et que nous serons tous saints, nous pourrons être dans cette présence permanente de Dieu. Dieu sera à nos côtés. Troisième élément, le mal ne sera plus, Dieu habitera au milieu de nous. Troisième élément, cette nouvelle Jérusalem qui descend, que nous dit l'Écriture ? Au verset 9, l'Écriture dit « Je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau ». Cette Jérusalem céleste qui descend, c'est l'Église. C'est l'ensemble des croyants qui descendent du ciel avec Dieu, le Père. C'est le mariage du ciel et de la terre. Il n'y aura plus de ciel dans le sens où Dieu habite au ciel, mais la résidence permanente de Dieu sera sur terre avec l'ensemble des croyants. Et la présence de Dieu couvrira toute la surface de la terre. Voilà notre perspective. Voilà ce qui est devant nous. Voilà les petites odeurs de lavande que l'Écriture nous donne à sentir sur ce qui est devant nous. Vous comprenez l'image avec l'illustration au début de cette prédication. Pouvons-nous imaginer un instant ce que cela représente ? Vivre de manière permanente dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus aucun obstacle dans notre communion avec le Seigneur. Dieu est un être immatériel. Dieu est esprit. Et en cela, il habitera l'habitation du Saint-Esprit que nous percevons déjà aujourd'hui dans notre existence, sera complète, ce qui signifie que dans notre vie, il n'y aura pas un seul instant où nous ne serons pas en communion avec le Seigneur. Et Jésus-Christ sera parmi nous. Est-ce que vous imaginez que nous vivrons l'éternité en ayant Christ dans son corps ressuscité tel qu'il est paru à ses disciples ? Suite à la résurrection, il sera avec nous. Nous pourrons le toucher comme Thomas l'a touché. Et j'en dirai un mot encore tout à l'heure. Vivre de manière permanente avec Dieu et dans la présence de Dieu. Ce texte nous parle donc d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Comment comprendre ces choses ? Et il est dit de cette création, au verset 1, qu'elle a disparu, le premier ciel, et la première terre avait disparu, la mer n'existait plus. Et je fais encore un petit commentaire sur l'image de la mer. Est-ce que cela signifie que dans cette nouvelle terre à venir, la mer, les océans tels qu'ils existent aujourd'hui, n'existeraient plus ? Il me semble qu'il faut être prudent si nous affirmons cela, parce que la mer a un sens bien précis tout au long de l'Écriture. L'Apocalypse, c'est un concentré de l'Ancien Testament. Vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse si vous ne connaissez pas votre Bible, si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament. La mer dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament de manière particulière, c'est le lieu d'habitation de toutes les puissances célestes et invisibles qui s'opposent à Dieu. Le monstre marin qui fait peur, la menace, est souvent illustrée par le lieu où elle habite, c'est la mer. Et il me semble que dans ce sens, le fait que la mer n'existe plus fait simplement un écho au fait qu'il n'y aura plus de mal, plus de deuil, plus de plainte, plus de souffrance. Il n'y aura plus rien à craindre. Et que l'on peut donc envisager qu'il y aura une mer ou encore des océans. à quoi vont ressembler ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Et je vous propose la lecture d'un deuxième texte, qui cette fois-ci se trouve dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, et le verset 3. Il y avait parmi les chrétiens, et pas que parmi les chrétiens, mais aussi parmi les gens qui étaient les incroyants, des accusations, voire des moqueries contre ceux qui prétendaient que Christ allait revenir, et qui n'est toujours pas revenu lorsque Pierre écrit son épître. Et je vous propose la lecture de quelques versets à partir du verset 5 de Pierre, chapitre 3. Je répète, 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Mais il y a un fait que les gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils seront gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'auront aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront. Et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu, en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégeront et les astres embraserés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Jusqu'ici. Quel est le thème de ce chapitre ? Ce chapitre n'est pas tant la description des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, mais c'est l'annonce du jugement de Dieu qui va s'exercer et qui appelle donc tous les hommes à mener une vie sainte dans l'attente de ces choses à venir. Si l'Écriture mentionne les nouveaux cieux et la nouvelle terre comme un encouragement et une espérance à animer et à entretenir dans notre présent, elle mentionne aussi ces choses à venir pour appeler le croyant à vivre d'une manière sainte. Et ici, Pierre fait un lien évident entre les choses à venir qui influencent notre sainteté dans notre quotidien. Vivre dans l'attachement à Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus reviendra, son retour sera accompagné d'un jugement. Et si vous regardez les éléments descriptifs de ce jugement est terrible. Que nous dit ce texte ? Ce texte dit que le retour de Jésus-Christ sera accompagné de signes extraordinaires dans le ciel, fracas terrifiants, astres embrasés qui se désagrègent, signes dans le ciel, la terre sera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle, l'univers doit ainsi se désagréger, et ensuite, quelle vie sainte vous devez mener. Ce n'est pas seulement la terre qui va être touchée lors du retour de Jésus-Christ, mais c'est l'univers tout entier qui subira un cataclysme, a priori, impressionnant. Cette description appelle cependant à quelques remarques. En fait, je l'ai mentionné, ce texte, l'objet et le thème principal de ce texte, c'est d'abord le jugement de Christ que Christ va opérer lorsqu'il reviendra sur l'ensemble de l'humanité, sur l'ensemble des hommes. Et il faut mentionner que dans ce cadre-là, Pierre semble utiliser toutes les images présentes, notamment dans l'Ancien Testament, les images que l'on trouve lorsque Dieu se manifeste de manière sensible au peuple d'Israël. Par exemple, en Exode chapitre 19, lorsque Dieu descend sur le mont Sinaï pour donner la loi à son peuple, quels sont les signes qui accompagnent sa descente sur cette montagne ? Tremblement de terre, nuée, son de trompette, du feu, le ciel qui est obscurci. Et les parallèles avec les signes qui sont présents dans l'épître de 2 Pierre sont assez, on ne peut pas passer à côté, sont frappants. Pierre semble mentionner les mêmes signes que ceux que l'on trouve lorsque Dieu apparaît et se manifeste auprès de son peuple. Qui en soi est la confrontation entre la sainteté de Dieu et le péché du peuple. D'ailleurs, Israël est terrifié devant ce spectacle et à plusieurs reprises dit « Mais nous ne voulons plus voir la présence de Dieu, tellement c'est terrifiant, envoie-nous un prophète ». Nous avons là le début du ministère prophétique avec Moïse comme premier prophète. Dans d'autres textes prophétiques de l'Ancien Testament, notamment Joël, au chapitre 3, lorsque Joël annonce la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit arrivera un jour, où le Saint-Esprit descendra sur tout homme, des femmes, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, des jeunes gens, des vieillards, quelle que soit leur condition sociale, serviteur ou maître, et qui en même temps renvoie à quelle que soit leur origine culturelle, lorsque ce jour arrivera, que le Saint-Esprit descendra sur toutes ces personnes et qui, à la fin du chapitre 3, ceux qui invoqueront l'Éternel seraient sauvés, lorsque Joël annonce la Pentecôte, les signes qui accompagnent sont les mêmes que ceux que nous trouvons dans Exode 19 et que nous trouvons dans ce texte. En ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune sera de couleur sang, et l'on trouve les signes que l'Écriture nous indique lorsque Dieu descend sur la terre pour juger son peuple. Ce sont les mêmes signes que ceux que nous trouvons dans l'Épître. Et lorsque l'apôtre Pierre, en acte 2, dit le jour de la Pentecôte que Joël 3 est aujourd'hui accompli, il dit que le jugement de Dieu maintenant va commencer. Celui qui accepte l'Évangile échappe au jugement. Celui qui refuse est déjà condamné. C'est les paroles mêmes de Jésus. Et que le jour de la Pentecôte, le ciel n'est pas devenu de couleur sang, il n'y a pas eu ces signes mentionnés dans Joël 3, de manière visible et sensible, il y a eu effectivement quelque chose comme des flammèches qui descendaient sur les croyants, il y a eu quelque chose comme un souffle qui passait par la maison où les chrétiens étaient rencontrés. Mais les images utilisées par Joël, que nous retrouvons, me semble-t-il, dans Pierre, témoignent d'abord du jugement de Dieu et de la présence de Dieu qui va être rendue visible par la venue de Christ. Ce qui fait que le texte de 2 Pierre 3 ne donne pas forcément des indications précises sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. D'ailleurs, Pierre semble faire un lien entre l'épisode de Noé et ce qui va se passer lors du retour de Jésus-Christ. Regardez ce qui est écrit au verset 6. « De la même manière que Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge, de cette manière-là, au verset 6, au verset 7, ces cieux et cette terre seront réservés par le jugement au travers du feu. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Pierre fait un parallèle entre l'histoire de notre création qui, à un moment donné, a connu le jugement de Dieu en Noé. Et comment cela s'est passé? C'est un jugement qui est tombé par l'eau sur cette création. Et Pierre dit que le monde d'alors a été détruit. Or, nous savons que c'est cette création-là sur laquelle nous habitons, c'est cette terre-là sur laquelle nous habitons, qui a subi le jugement de Dieu par les eaux. Et quand Pierre parle ici de destruction, ce n'est pas une destruction dans le sens où cette terre-là aurait complètement disparu, mais qu'elle a été jugée et renouvelée. Il y a eu un avant, il y a un après, mais dans cette création-là. Et ici, dans notre quête de réponse à quoi ressembleront les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Si Pierre dit que de la même manière cette terre a été jugée par les eaux, elle le sera aussi par le fait. Ce texte mentionne à coup sûr une continuité entre cette création actuelle et les nouveaux cieux et la nouvelle terre à venir. D'ailleurs, au verset 5, Pierre mentionne que cette terre a été créée, que nous vivons, Dieu a créé le ciel et la terre, autrefois il a séparé, etc. Ce qui est déjà un élément de réponse, à quoi vont ressembler les cieux et la terre? Certainement qu'il y aura une continuité entre notre création actuelle et le monde à venir. Et je vous propose la lecture d'un troisième texte, cette fois-ci dans le livre, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et chose intéressante dans ce texte, c'est que précisément les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont au centre de la problématique que Paul développe dans ce texte. Je lis à partir du verset 18, et regardez, le verset 18 en soi est déjà un encouragement profond. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous lisez ce texte, mais moi je respire. Ah, oh, c'est zen! Quel privilège! La souffrance présente, nous la connaissons, nous la vivons. Et Paul dit qu'il y a pas de commune mesure entre les deux, tellement ce qui est devant nous est énorme par rapport à ce que nous connaissons dans notre dimension actuelle. Et Paul en dit un peu plus sur le sujet. Verset 19. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité, cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir. Car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons au fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Que dit Paul? Déjà, à partir du verset 18, il nous appelle, je le répète, à se réjouir des choses à venir lorsqu'il compare notre situation actuelle et notre destinée finale. La deuxième chose que Paul nous dit, c'est que de la même manière, nous aspirons à cette perspective, et ici Paul mentionne la glorification de notre corps, c'est-à-dire ce qui va se produire lorsque nous allons ressusciter d'entre les morts, nous ne sommes pas les seuls à aspirer à cela. La création de Dieu tout entière, et c'est bien de cette création dont Paul parle, cette création aspire à la même chose. Parce que la création de Dieu elle-même subit les conséquences de la désobéissance de nos premiers parents en Genèse 3 dans le jardin d'Éden. Le péché n'a pas seulement corrompu les êtres humains, mais la désobéissance de nos premiers parents a eu un retentissement dans la création tout entière. Et elle-même souffre des conséquences du péché. Elle n'est pas responsable en tant qu'elle. Paul présente ici la conséquence du péché comme un effet subi à cause de celui qui lui a soumise au verset 20. S'il y a un siècle dans l'histoire de l'humanité où nous pouvons comprendre cette aspiration de la nature, c'est bien le siècle dans lequel nous vivons. Nous sommes dépassés par des phénomènes tels que le réchauffement climatique, qui sont la conséquence directe de la suractivité, de la surexploitation du monde créé que Dieu nous a donné, que nous devions gérer en bien, en bon gestionnaire, et dont nous avons abusé. 49% des richesses de ce monde sont détenues par 1% de la population. Nous exploitons de manière injuste toute la création que Dieu nous a donnée. Les dérèglements climatiques, la pollution, jusque dans l'espace, sont des signes de notre désobéissance, de notre corruption à cause du péché. Et Paul dit que cette création-là connaîtra la glorification, et Paul nous le dit par analogie avec ce que nous serons en tant qu'êtres ressuscités. Disons un mot sur ce que nous serons lorsque nous ressusciterons. À la fin des temps, lorsque Jésus reviendra en même temps que l'avènement de ces nouveaux cieux et de ces nouvelles terres, l'Écriture nous dit par ailleurs que tous les hommes ressusciteront, et les croyants, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ceux qui lui ont abandonné leur vie, ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, ressusciteront dans un nouveau corps qui, lui, comme la nouvelle création, ne pourra plus connaître la corruption, ne pourra plus connaître le mal, ne vieillira plus, sera un corps parfait. J'aime à dire que j'aurai un peu plus de cheveux dans ce corps glorifié que ce que j'en ai à l'heure actuelle. Comment serons-nous ? L'Écriture nous dit par ailleurs que Christ est le premier des ressuscités. Donc, observer et contempler Christ ressuscité est simplement un indicateur de ce que nous serons lorsque nous ressusciterons. Première chose à dire, c'est que lorsque Christ est ressuscité, c'est dans un corps physique, certes, qui a subi des transformations, qu'il est ressuscité. La résurrection des corps n'est pas une réalité spirituelle, immatérielle, qui serait sans continuité avec notre existence actuelle. Le Jésus ressuscité est le même que le Jésus d'avant la résurrection dans sa personnalité, dans ce qu'il est. Certes, il l'a changé. Les disciples ne l'ont pas reconnu tout de suite. Et les disciples, on se demande s'ils n'ont pas affaire à un esprit. C'est ce que nous dit Jésus dans, justement, l'évangile de Luc, au chapitre... c'est au chapitre 24 que cela est dit. Alors, j'ai changé ma Bible, je sais que c'est dans la colonne du milieu en bas à droite, et comme je n'ai pas ramené ma grosse Bible d'études. En tout cas, Jésus dit « un esprit n'a ni corps ni chair, or j'ai un corps ». On constate que Jésus mange, ce qui me rassure et ce qui me fait plaisir. Jésus fait même un barbecue avec ses disciples sur la plage. Perspective intéressante, n'est-ce pas ? Et en même temps, il est changé. L'Écriture semble aussi indiquer, et Jean le mentionne un peu en creux dans le texte, qu'il se passe des choses particulières. Voilà que les disciples sont rassemblés dans un endroit, les portes sont fermées, et que nous dit Jean ? Et soudain, Jésus est au milieu d'eux. Est-ce que Jésus passe par les portes ? Peut-être. Mais il ne faut pas oublier non plus par ailleurs que Jésus a aussi marché sur les eaux avant la résurrection. Quoi qu'il en soit, puisque Christ est le premier des ressuscités, nous serons comme lui, dans un corps physique. Et je suis aujourd'hui Éric Wechter, et je serai encore demain Éric Wechter, même avec un corps ressuscité. Ma grand-mère a plus de 95 ans. Elle est hospitalisée depuis maintenant près de 2 ans. Elle est dans une fin de vie progressive. Elle a toute sa tête. Mais les forces physiques l'abandonnent. Et chaque fois que je la vois, elle est en Alsace, chaque fois que je la rencontre, je dis... alors, on dit, pour parler des grands-parents en Alsace, on dit « ma maman ». Voilà, « ma maman ». Je lui dis « est-ce que c'est la dernière fois qu'on va se voir ?» Peut-être. Et à Noël, je l'ai vue pour la dernière fois. Elle est encore en vie, mais je l'ai vue pour la dernière fois à Noël. Et je lui ai dit « ma maman, comment est-ce que tu seras quand tu seras ressuscité ?» Ma grand-mère a la peau toute fripée. Elle est vieille. Elle manifeste dans son corps en puissance les effets de la vieillesse, complètement dépendante. Et c'est une souffrance quand on est dépendant des autres, qu'on n'a plus la force pour se bouger dans le lit et qu'on a toute sa tête. Et je lui dis « tu seras comment quand tu vas ressusciter ?» Et on a commencé à rêver. Je lui ai dit, mais tu seras une belle jeune fille. C'est quoi la force de l'âge dans notre humanité? L'âge dans lequel on est pleinement adulte, pleinement beau, juste avant les cheveux gris qui arrivent. Vous voyez cette période de l'âge où on est dans la force de l'âge, beau, grand. C'est quoi cet âge-là? Je ne sais pas. Avant 30 ans, vous êtes d'accord avec moi? Et encore, même là, on peut déjà avoir vieilli un peu. Donc c'est compliqué pour nous d'imaginer ce que c'est. Et c'est comme ça que j'entends, que je comprends le fait que les disciples n'ont pas tout de suite reconnu Jésus. Parce que Jésus, dans son humanité, a accepté de subir le processus de vieillissement. Il a adopté notre condition humaine, sans péché. Il a été parfait. Et qu'il est donc normal que dans cette transformation, on n'est pas reconnu tout de suite. Est-ce que je vais reconnaître ma grand-mère? Ben, je pense qu'elle va devoir me dire « Coucou Eric, c'est moi ». Voilà les choses qui sont devant nous. Et nous pouvons formuler une petite synthèse à partir de ces quelques textes. Alors à quoi vont ressembler les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Si l'Écriture mentionne une continuité, mais aussi une discontinuité, alors une continuité, c'est que c'est cette création-là dans laquelle nous vivrons pour l'éternité. Elle mentionne aussi un certain nombre de discontinuités, c'est-à-dire que elle va d'abord devoir passer par un processus de purification, de la même manière que ça a été l'eau pour Noé, ça sera le feu lors du retour de Jésus-Christ. Et donc on peut faire notre intelligence et notre imagination à là un intervalle où elle peut rêver. La nature qui nous entoure est belle. La création de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Et cela demeurera sur ces nouveaux cieux et sur cette nouvelle terre. Que nous serons des hommes transformés, mais toujours des êtres humains, toujours des créatures de Dieu. Et que dans ce monde créé, purifié, dépassé par rapport à l'Éden, encore plus beau que l'Éden, Christ habitera parmi nous. Peut-être que nous ferons un barbecue avec Jésus, hein, comme il l'a fait. Moi, je suis partant, hein, tout de suite. C'est sympa, hein, d'être... Enfin, pourquoi? Parce que le barbecue, c'est, dans notre culture française, c'est le symbole de l'amitié, du bon temps qu'on passe ensemble, de la communion fraternelle, c'est chouette. Faites ça au bord du plage, après tu peux faire un petit foot. J'exclus pas que ça se passe dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et que dans toutes nos activités, parce que Dieu habitera pleinement nous, tout ce que nous ferons sera constante louange à notre Créateur. Allez, faire une partie de foot, ce sera louange à Dieu. Passer du temps avec Christ et nous serons en admiration de ses traces dans ses mains et dans ses pieds, parce que encore plus que maintenant, dans ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre, quand nous y serons, nous nous rappellerons que si nous avons le privilège d'être là, c'est à cause de qui? C'est à cause de Christ. Et que rien n'est l'effet de notre propre initiative, que rien ne serait la conséquence de notre spiritualité. Que quand nous serons là, nous contemplerons de manière définitive la grâce de Dieu. Tel que l'explique ce cantique, je ne sais pourquoi dans sa grâce Dieu m'a tant aimé. Pourquoi mon péché l'efface? Toutes ces choses, c'est par grâce acquise en Christ et nous n'y sommes pour rien. Et nous contemplerons la beauté de Christ, nous serons émerveillés de ce que Christ a fait. Et que là, l'éternité prend une couleur extraordinaire. Moi, je souhaite que jamais cela ne s'arrête. Et c'est ce qui nous est promis. Que jamais la présence de Dieu nous soit ôtée et elle ne pourra plus nous être ôtée. Que le ciel sera sur la terre. Apocalypse chapitre 21. Et que nous vivrons avec tous ceux que nous avons perdus en cours de notre existence humaine, tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Nous les retrouverons là. Alors, je me réjouis de retrouver mon grand-père. Je peux vous dire aujourd'hui, dans ma vie présente, ça m'encourage. La possibilité pour des parents de retrouver un enfant perdu. Quelle perspective extraordinaire! La séparation de la souffrance, la douleur de la séparation est bien réelle. Et de savoir que cet enfant sera retrouvé dans l'éternité pour toujours. Les liens, nous reconnaîtrons nos enfants qui auront donné leur vie à Christ. Quelle beauté! C'est mieux que les quelques sentiments que j'éprouvais quand j'étais jeune avant de partir en vacances. Sentir à partir de Lyon, dans la voiture, ouvrir les fenêtres et sortir la tête juste pour sortir l'air du sud qu'on ne connaît pas en Alsace. Hein. Ah, alors certes, c'était l'odeur du gasoil aussi, mais déjà, c'est pas grave, ça fait déjà tellement de bien. Et le premier, ironie de l'histoire, le premier endroit où je me sentais vraiment dans le sud, c'était l'aire d'autoroute au sud de Montélimar, les Portes du Soleil. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'habite tout près de là. Mais quand je sortais de la voiture, là, j'étais dans le sud. Là, j'étais arrivé. Et j'ai oublié toutes les souffrances, l'attente du passé, la grisaille en Alsace. Il fallait surtout pas penser au retour. C'était déjà gâché, ces vacances. Mais de dire, ça y est, on y est. Et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on y sera. Mais il n'y aura plus de retour. C'est un aller simple. Yatal, c'est le sens de Yatal, vous avez vu, billet aller simple. Un aller simple. Et je ne peux m'empêcher de vous poser la question. Est-ce que vous avez le ticket pour cet aller simple? Peut-être que vous êtes là, les dimanches, depuis plusieurs dimanches, que vous chauffez les bancs, les chaises de cette assemblée, et que vous vous posez la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a... Ne passez pas à côté de ce qu'est l'Évangile. Ne passez pas à côté de votre destinée, celle qui vous est offerte en Christ, et qui change déjà le présent, qui change même les souffrances du présent. Mais comme le dit Paul, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et les choses à venir. Les amis, le meilleur est devant nous. Et c'est aussi ça la bonne nouvelle de l'Évangile.